Ça faisait drôle hier, un mardi, pas de hockey. Là, le mardi soir, il me semble que j'écoute le hockey.
Il joue souvent, le Canadien, le mardi.
Il y avait peut-être d'autres matchs, j'ai pas pitonné bien, bien.
Il y avait Philadelphie Tampa dans ton, dans ta TV.
OK.
Si t'avais voulu.
As-tu regardé ça un petit peu?
Un petit peu. Un petit peu. Tampa était trop fort.
As-tu vu Samuel Morin?
Non, j'ai pas vu Sam Morin. Il s'est blessé, je pense. Encore un genou.
Ça, je veux pas mal l'agacer, je l'agace.
Il n'a pas, pas été chanceux.
Ouais, ouais. Pas chanceux.
Le Canadien sera en action ce soir, par contre, dans votre télévision et au radio, bien sûr, avec Martin et Danny pour vous décrire toute l'action du tricolore. C'est à 19h pour le match, 18h30 pour l'émission d'avant-match. Un premier de trois matchs en quatre jours sur la route pour le Canadien qui affronte ce soir les Capitals à Washington, D.C. Washington a un très bon début de saison. Seulement trois défaites en temps régulier en 19 parties. Washington, ben, c'est Alexander Ovechkin, maintenant âgé de 36 ans, qui est troisième meilleur marqueur de la Ligue ce matin, derrière Dreisaitl et McDavid. Puis ces trois-là, ont, c'est comme ils se sont séparés. Au Tour de France, là, ils seraient partis les trois en avant, puis tu les verrais plus. Là.
Comme la Formule 1, mettons.
Pareil.
C'est des fois
Mercedes,
les autres.
Red Bull, puis ouais, les autres.
Mais attends un peu, là. Ovechkin est troisième scoreur de la Ligue.
Oui, oui, oui.
OK.
15 buts, 15 passes pour 30 mission. Points en 19 matchs. Il est peut-être en mission.
Ah, ouais, hey, 30 points, c'est du stock pareil.
Parce que suivre Dreisaitl et McDavid, il faut que tu attaches tes lacets serrés.
Ils sont à combien, eux autres, à peu près?
35 et 32.
OK.
Ils en font quasiment deux. Ils en font deux par match, eux autres.
OK.
Pas hier.
Non, pis, hier, non.
Puis eux autres, ils jouent ensemble.
Oui.
Tu sais, fait que quand un score, souvent, l'autre va ramasser un point quelque part.
C'est l'écart avec les autres. Là. Après McDavid, après Ovechkin, qui a 30 points, je pense que c'est 23, 22 ou 23. Là,
OK.
Ils ont déjà creusé un petit écart.
Pis c'est avec qui ils jouent, Ovechkin?
Bonne question.
C'est là
que parce que Bäckström est blessé. Il doit jouer avec Kuznetsov.
Ouais, OK. Ouais. Parfait.
Je vais pas essayer de regarder les Capitals. Là. Peut-être Oshie.
Okay.
Il joue un avantage numérique, évidemment. Là. Puis il est installé à gauche. Hein. Il s'est fait un petit bureau. Là. Puis il traîne. Ça, c'est un bureau portatif. Ça, il traîne ça partout.
Je trouve qu'il est loin, son bureau, par exemple.
Ouais.
Trouves-tu qu'il est rendu, qu'il snappe de, en haut, beaucoup en haut du cercle?
Oui.
Il score pareil, Batince.
Mais il est hanté. Quand tu fais la boîte là, en désavantage numérique, tu as tes deux défenseurs qui sont plus près du gardien. Puis les attaquants, normalement, sont un petit peu plus haut, sont aux oreilles, un petit peu plus haut que les oreilles. Fait que lui, il s'installe dans la ligne de passe. Entre ça, là. Fait que si tu veux couvrir Ovechkin, il faut que tu triches un petit peu. Puis là, tu laisses le défenseur un petit peu plus ouvert. Okay. Ça doit être dur, je vois.
Tu triches en descendant.
Oui.
Si t'es l'attaquant, t'es obligé de tricher plus bas.
Fait que là,
tu laisses en arrière.
Carlson en haut. Okay. Ça doit être dur, jouer contre les Capitals. Le power play, puis ça part tout par Ovechkin. Aussitôt qu'il est ouvert, il y a un coéquipier qui le voit. Puis lui, Ovechkin, il garde ça simple. Il shoot. C'est pas compliqué, ben, ben. La rondelle arrive, pif. Il frappe, puis... souvent, ça marche. Là.
Je serais curieux de le voir en échapper. D'après moi, il finirait par cette année.
Je pense qu'il n'est pas très bon en shootout. Tu dis ça, là. Puis, il n'est pas toujours employé en fusillade.
Ouais, hein.
Oshie est excellent. Oshie, il te fait mal paraître dans une boîte téléphonique. Là.
Okay.
Et tu vas regarder par là, puis lui, il va être rendu l'autre bord, dans la boîte téléphonique.
Okay.
Il
donc,
est assez habile.
Ce que tu es en train de dire, c'est que le Canadien n'a aucune chance ce soir.
Non, pas aucune chance, là, mais Jake Allen revient au jeu, puis il a besoin d'attacher ses jambières serrées, puis son casque aussi. Là.
Celle d'en haut, il faut que tu la serres.
Qu'elle soit lousse.
Ouais. Même en bas.
Il
n'attache plus le bas,
c'est
gros là.
C'est vrai que c'est lousse.
Ah non, c'est pour ça qu'ils font le papillon. Tu regarderas, les jambières de gardien de but sont toujours face au jeu.
Ouais,
parce que le gars, il se bouge les pieds là-dedans. Ouais, c'est vraiment... Non. C'est bien fait en tabarouette à cette heure-là. Puis c'est ben, hey, c'est pas des straps de cuir.
Non.
Fallait se coucher à terre en plein ventre. Hein. Tu sais, quand on joue au hockey, nous autres, notre goaler, il se couchait à terre en plein ventre. Deux gars qui venaient y se trapper ça, je trouve. Il n'y avait plus de sang dans les orteils quand on le lâchait.
Ça bougeait pas.
Pam, il avait attaché mes jambières.
Ça bougeait plus, c'est sûr, Donc, c'est lui, Jacques Allen, qui aura la chance d'affronter Ovechkin et sa gang à compter de 19h ce soir. Allen n'a pas joué depuis le 13 novembre. Il avait subi une commotion cérébrale dans le match contre les Red Wings de Détroit.
On va l'appeler pour lui dire de pas attacher ses pads trop.
Hier, on apprenait aussi que Brett Kulak n'a pas fait le voyage pour le Canadien. Il est blessé au bas du corps, qu'on nous a dit Brett Kulak. Donc, un défenseur régulier qui sera absent pour le Canadien qui s'en va ensuite à Buffalo vendredi et à Pittsburgh samedi. La COVID-19 continue de frapper dans la Ligue nationale de hockey. Les Islanders de New York ont maintenant sept joueurs dans le protocole de la COVID. Hier, on a ajouté le grand Chara à cette liste qui comprend Anders Lee, Josh Bailey, Ross Johnston, Andrew Green, Kiefer Bellows et Adam Pelech. proche. On est à la veille pour la Ligue nationale de hockey de prendre une décision pour les prochains matchs des Islanders. Pour les Sénateurs, la semaine dernière, on s'était rendu à 10 joueurs qui avaient contracté la COVID. Et on espère que ça s'arrête chez les Islanders le plus vite possible. Évidemment, on veut pas ça dans la Ligue nationale de hockey.
Mais moi, je comprends pas pareil. Ils sont vaccinés deux fois depuis une course, eux autres.
Ils n'ont pas le choix. Il y a Bertuzzi à Détroit. Il y en a peut-être un ou deux autres qui m'échappent.
Oui, mais mettons, une équipe comme les Islanders, là, mettons, sont vaccinés deux fois depuis quand? Là?
Depuis le camp d'entraînement. Début septembre.
Même avant ça, peut-être. Il est dans une série l'année passée. Il y avait plusieurs équipes qui devaient déjà être vaccinées. Je sais pas si c'est l'efficacité qui diminue, pour ces gars-là qui s'entraînent fort puis tout ça.
C'est sûr.
Puis que là, leur corps peut-être qu'il élimine plus. Je sais pas. J'essaie de comprendre comment il peut y avoir une éclosion.
Je crois pas qu'il y en ait beaucoup de malades dans ça.
Non, c'est ça. Tu dors de l'asymptomatique à plein. Là,
ouais. OK. En tout cas, c'est quand même étonnant pareil.
Oui, mais quand ça commence à circuler, on s'entend que c'est contagieux, ces virus-là, évidemment. Les Devils ont dévoilé leur troisième chandail hier. Je sais pas si tu as vu ça.
Non.
Le concepteur est Martin Brodeur. C'est un beau chandail noir avec des rayures blanches sur les épaules. Les Devils n'avaient pas eu de troisième chandail. Et c'est uni comme chandail. Le noir puis les rayures, c'est blanc, c'est carré, c'est très straight, je vais dire. Mais c'est beau. Le jersey est stylisé, écrit en lettres attachées. Je trouve ça bien. Puis c'est Martin Brodeur qui est le concepteur. On lui connaissait pas ses talents-là à l'ancien gardien de but des Devils.
On peut-tu parler de nouveau chandail tout de suite?
Oui.
T'as-tu vu le chandail de...
Canada?
Ouais.
Ouais.
Je les ai pas vus. J'ai entendu, j'ai lu des commentaires.
On a sorti des couleurs, le blanc, le rouge et le noir.
Ouais, noir sur noir, ça me dit que c'est très beau.
Noir sur noir, oui. Okay. Je déteste pas le noir, ils sortent de plus en plus.
OK.
J'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de différence. Là.
OK, avec ce qu'il y avait avant, OK.
Feuille d'érable, puis est en évidence.
OK. Fait que c'est beau. Gars et filles qui vont jouer avec ça aux Olympiques en février
de Pékin.
Ouais. À Peking.
Beijing, effectivement.
C'est Pékin ou Beijing?
C'est va être les deux.
C'est les deux?
Tu te lèves le matin, tu pars de Montmagny, tu dis, ce matin, ça va être Beijing. Ça pourrait être Beijing, ça pourrait être Pékin. On ne s'assinera pas, là.
Mais c'est le même mot, c'est une traduction ou c'est deux noms?
Deux langues différentes. Ouais. C'est le même mot.
Okay. Pékin et Beijing, c'est la même affaire.
Ouais. Mm-hmm. Okay. En chinois, c'est encore d'autres choses, là.
Peking.
Probablement Peking.
C'est là, ça.
Ça va être là. Les Jeux olympiques, toujours bien. Tampa Bay a gagné 4-0 hier. Un jeu blanc pour Vasilevski. Troisième but pour le Magny-Montois, Alex Barry-Boulet. Et Corey Perry a marqué son premier but de la saison. Quand il a marqué, il a mis sa main droite derrière lui. Puis il a comme enlevé un singe sur ses épaules. Ah. Il avait hâte de marquer Corey Perry.
As-tu donné un crochet à quelqu'un après?
Non. Bon, à cette heure qu'il joue pour une autre équipe.
Oui,
c'était parfait. Là. Moi, j'adore ça.
Fouet. On renote ses défauts.
C'est une qualité. Ça, il est tough à jouer contre.
C'est quoi l'affaire du singe? J'étais la première fois?
C'est son premier but de la saison en 18 matchs.
OK, je savais pas.
Mais tu comprends qu'avec le Lightning, son tour vient moins.
Ça vient moins vite. Puis Barry Boulet a l'air de barrer.
C'est un beau but. Il a l'air de barrer.
Mais tu sais, comme il était envoyé des mineurs vendredi, il a scoré dimanche, il a scoré hier.
Ouais.
Fait que là, il va peut-être être un petit peu plus utilisé.
Braden Point est blessé pour un mois. Ça donne un petit coup de main à Barry Boulet pour être employé, effectivement. Mais il est encore sur la ligne. Même si Stamkos marque pas pendant 6 matchs, ça me surprendrait qu'ils mettent Barry Boulet à sa place.
Non, je comprends. Mais vu que Pointe est blessé, peut-être que ça ouvre une place, mais pas ça à 3 puis ça à 4.
Il joue sur la deuxième vague du jeu de puissance.
Donc, c'est ça.
Plus offensif.
Des fois, c'est un joueur de quatrième ligne qui se blesse, t'es rappelé.
Oui.
Mais là, t'es pas dans la bonne chaise pantoute. Toi, c'est pas ton rôle. Fait que c'est plus difficile. Mais là, si t'as une chance de jouer sur une des deux premières lignes,
ils ont quelques autres jeunes, là. Kachuk, Boris Kachuk, Colton. Mathieu Joseph, c'est avec ces gars-là qu'Alex Barry-Boulet peut batailler pour une place dans l'alignement. Corey Perry, il jouera pas 82 matchs. Là.
Non, c'est ça.
C'est plus une fleur du printemps. Là. Mm-hmm. La fleur a fané une petite affaire. C'est encore très utile.
Pour engager Mikael Frolik.
Les gars que t'as nommés, là, c'est des gars qui ont développé eux autres mêmes.
Oui, exactement.
C'est pas Trevor Timmons qui repêche eux autres, hein?
Non, c'est pas Trevor Timmons, je te le confirme.
Il y a juste un contrat, lui.
Je te le confirme, Stéphane. Il y a juste un contrat, oui. C'est un bon point, ça. Connor McDavid a été blanchi pour la première fois de la saison hier en 18 parties. Il a été blanchi dans la défaite des Oilers 4-1 contre les Stars à Dallas. Match dans lequel le défenseur Klingberg a récolté 3 passes.
Mais Je pense à ça vite de même, là. Mettons, on est au repêchage.
Ouais.
Puis moi, je suis le directeur général de Tampa, là.
Yes, sir.
Puis là...
Tampa Bay, you're on the clock.
Juste avant moi, c'est le Canadien qui repêche. Okay, là, les gars sont un peu nerveux. Hey, on pourrait-tu perdre notre joueur? Puis facilement, je dis, non, les boys, cassez-vous pas la tête, là. Ils repêcheront aucun qui est sur nos feuilles. OK? Cassez-vous pas le bessic, là. On se fera voler rien ici, là. OK?
À part s'ils jouent quelque part en Russie, là, on a ça.
Peut-être une chance. Si on n'est pas capable d'écrire son nom, ça se peut.
Arrête, là. Calgary a gagné 5-2 contre Chicago hier. 9e but pour Tkachuk et pour Johnny Gaudreau. Maintenant, à chaque mois, la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey dévoile sa liste en vue des meilleurs espoirs. On l'ajuste. Des joueurs perdent des points, d'autres n'en perdent pas ou en gagnent. Puis ça n'a pas changé beaucoup depuis le début de la saison. Il y a toujours 3 joueurs de la LHJMQ côté A. On les cote A, B, C, autres. C'est sûr que c'est de même, ça marche. Nathan Gaucher, Tristan Luneau et Maverick Lamoureux sont les 3 joueurs de la LHJMQ qui ont toujours la cote A, donc potentiel choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Nathan Gaucher ne peut pas avoir perdu de points. Il joue bien depuis le début de la saison. Les deux autres, Luneau a été blessé. Il vient de recommencer à jouer il y a de ça quelques semaines.
Il est bon que ça, lui?
Il est très bon. Il est très, très bon. Oui. C'est un joueur très intelligent. Tristan Luneau, ça a été le premier choix de tout le repêchage de la LHJMQ l'an passé.
Il est-tu gros?
Il n'est pas très gros. Ça, c'est une bonne question. Il n'est pas très gros. Mais il y a des défenseurs qui sont pas très gros qui réussissent à se démarquer.
Victor Mété, c'est pas un monstre, là.
Victor Mété non plus.
Samuel Girard est pas très gros. McAvoy à Boston, c'est un joueur qui est assez, évidemment, très rapide. Il est capable de jouer physique, mais c'est pas un gros bonhomme. Il faut que tu sois très bon, là. Il faut que tu sois rapide. Il faut que tu patines. Et si tu patines pas, oublie ça, là. Ça, c'est terminé pour toi, là. Et Maverick Lamoureux, ben, c'est une grande tour de 6 pieds 5 pouces. Qui joue à Drummondville.
J'ai des nouvelles. Je me souviens, la semaine passée, tu m'as parlé qu'Anthony Beauvillier était absent des Islanders.
Oui.
On avait dit blessé, peut-être, sur le coup.
Ouais.
Mais là, j'apprends que finalement, c'est un contact à moi là, qui est proche. C'est qu'il a vraiment testé. Il y a 4 tests. Négatif qu'il y a eu à la COVID, mais il avait testé positif dimanche.
Okay.
Fait qu'il est à l'écart du jeu à cause de ça.
Bon, je ne l'avais même pas sur la liste, lui.
Il n'est même pas là?
Non, ce serait un 8e, là, ce que tu m'apprends là.
Parce que là, à l'ouverture de la nouvelle aréna samedi, il n'a pas joué à cause du test positif à la COVID.
Bon, ben, je ne l'ai pas sur la liste.
Fait que, mais il a testé négatif 4 fois depuis.
Il s'est foqué en bataille. Ça en ferait 8. Ça va pas bien, ils sont à veille d'annuler des parties. Là. Mm-hmm. C'est ça qui va arriver. Dans la NFL, les Giants ont perdu, les Giants de New York, lundi. Et après le match, le coach Joe Judge, qui est un ancien adjoint de Bill Belichick, soit dit en passant, et un autre ancien adjoint de Bill Belichick, qui se rend compte que mais ça allait bien avec Bill Belichick tout seul. C'est me semble que j'ai le vertige un peu de temps en temps. Là, ça va moins bien, mon affaire. Alors, lui dirige les Giants, puis après la défaite de lundi, il a pas cherché d'excuses. Il a dit, bon, nos joueurs doivent exécuter, ça c'est une chose, mais nous, en tant qu'entraîneur, on doit être meilleur. Puis là, tu sentais qu'il visait quelqu'un sans le nommer. Puis, et 12 heures plus tard, on a compris le message de Joe Judge parce qu'il a dit à Jason Garrett, qui était son coordonnateur à l'attaque, à partir de tout de suite, Jason, je sais pas comment, mais je vais me passer de toi, pas pire. Alors, Jason Garrett a perdu son emploi de coordonnateur offensif avec les Giants. Lui avait été 10 ans entraîneur-chef des Cowboys de Dallas. Depuis 2 ans, il est responsable de l'attaque des Giants. En fait, il était responsable de l'attaque des Giants. Et ce qui est ironique un peu, c'est que son frère, Jason Garrett, John, dirige dans le collège américain. Puis en fin de semaine, John, son boss, l'a fait venir dans le bureau. Puis il a dit, John, je sais pas comment, mais à partir de tout de suite, je vois pas mal me passer de toi. Alors, pour le souper du Thanksgiving demain, les frères Garrett auront des choses à se jaser.
Ils ont du temps.
Et ils auront du temps, surtout, pour en jaser.
Pour aller fumer une bonne cigarette.
C'est drôle, hein? J'ai écouté le football en français avec lundi. Pierre Vercheval lundi.
Je connais rien.
Et non, arrête, il est bon.
Oui, je sais.
Mais Krim, il a dit des bons mots sur ce que Garrett avait présenté à la défense des Buccaneers. Pourtant, tu sais, il l'a pas planté, je sais pas.
Ouais, on n'est pas là à tous les jours, hein, Steph.
Ouais,
parce que hier, le coach Judge, il dit c'est pas un coup de tête là, ce que je fais à matin. Là.
OK, OK.
Fait que d'après moi, de temps en temps, ça y revenait, puis là-haut, puis il se calmait. Il prenait un petit verre d'eau, puis on va le garder, finalement, on va continuer ensemble. Puis, lundi soir, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Les Jets de New York se retrouvent avec un seul carrière en santé pour la fin de semaine. C'est le jeune Zach Wilson, parce que et Joe Flacco et Mike White ont contracté la COVID-19 et donc ne seront pas en uniforme pour le match du week-end. Mais le jeune Wilson peut faire un retour au jeu. Lui qui a joué 4 matchs jusqu'ici, qui a raté 4 matchs, c'est-à-dire et qui a joué 6 parties. C'est un lent début dans la NFL pour Zach Wilson, qui a été le deuxième choix du repêchage derrière Trevor Lawrence. 4 passes de toucher et 9 interceptions. Mais il joue pas avec un grand club. Par contre, c'est un lent départ, faut l'avouer, pour le jeune Wilson. Son caractère est testé, mettons, là, pour le début de son aventure dans la Ligue nationale de football. Et si on revient dans notre cours, les Faucons du Cégep Lévis-Lauzon ont embauché un nouvel entraîneur-chef. Je le connaissais pas beaucoup. Youssi Pierre. C'est un ancien receveur de passe qui a joué avec les Carabins, qui a joué dans la Ligue canadienne de football à Edmonton avec les Alouettes. C'est un ancien du Vieux-Montréal. Il est né à Montréal. Youssi Pierre est âgé de 36 ans. Puis hier, je lisais quelques articles sur lui, les gens qui le connaissent un peu mieux. Et on dit beaucoup de bien de ce monsieur-là. On dit qu'il est très rassembleur, Youssi Pierre. Donc, il prend la relève de M. Bouffard, qui a décidé de passer à d'autres choses comme entraîneur-chef des Faucons du Cégep Lévis-Lauzon.
En Division 1?
Division 1. Division 1, oui, okay, oui, oui. Okay. Et d'ailleurs, il a embauché Keane Arelimana, l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Sauf erreur, Keane était dans le personnel d'entraîneur cette année du Rouge et Or. Lui devient le coordonnateur défensif. Donc, un vent nouveau au cégep de Lévis-Lauzon. Puis voilà, c'est une nouvelle aventure qui débute sur la rive sud de Québec. Puis il y a deux, trois choses pour terminer. D'abord, les Rays de Tampa Bay n'ont pas l'habitude de dépenser beaucoup d'argent. Depuis 1998, en agent libre, les Rays ont dépensé 348 millions total depuis 98. C'est pas beaucoup, ça. Quand tu considères tous les contrats...
C'est dur à évaluer.
Il faut mettre ça en perspective que ça fait 22 ans, 23 ans qui sont là, les Rays, ils dépensent à peu près jamais d'argent. Ils perdent, les joueurs. Quand ils arrivent à signer les contrats, comme on voit souvent, de 20, 25, 30 millions par année, le joueur, il s'en va jouer ailleurs. Le plus gros contrat qu'on avait accordé chez les Rays, c'était Evan Longoria, un joueur de troisième but, 6 ans, 100 quelques millions de dollars. Puis il restait 200.
100 sur 300, c'est le même gars,
ouais,
là.
Ouais, c'est ça. Lui, il avait repris 100 de ça.
OK.
Puis il est parti. Il joue avec les Giants de San Francisco cette année. Ils veulent pas payer.
Non, mais ils ont toujours développé des jeunes joueurs. Ils le font avec Arizona Arena, là. Oui, c'est ça. Donc, ils ont tout le temps des jeunes qui arrivent et qui sont des superstars. Longoria, c'était un peu ça. Il est arrivé de nulle part.
Exactement.
Okay.
Mais là, il y en a un jeune. Il s'appelle Wander Franco.
Écoute bien ça.
Il est âgé de 20 ans. C'est le joueur d'Areco.
OK.
Il a même pas commencé l'année passée dans le show. Il a commencé dans les filiales. Puis,
il
était très bon. Oui, il est venu jouer. Il a joué 70 matchs cette année avec les Rays. Puis dans le détail, il était là. C'est un des meilleurs joueurs des Rays, vraiment. Il est très bon.
Mais il a 20 ans seulement.
Il a 20 ans, mais il a joué 70 parties.
OK.
70 dans le baseball majeur.
OK.
C'est pas une saison pleine encore.
Il est prêt.
Il
est prêt.
Mais hier, on lui a consenti un contrat de 12 ans qui va varier entre 182 et 223 millions de dollars selon les bonnies performance, puis si Wander Franco performe.
OK.
Il a 70 matchs de jouer. Mais ça veut dire qu'il doit être vraiment très bon.
Oui, oui.
Parce que les Rays, ils se disent, bon, s'il continue, puis il est bon comme on pense, si on lui donne un petit contrat de 3 ans, mettons 7 millions, mais dans 3 ans, c'est sûr qu'on le perd. On pourra jamais signer
ça. Il va faire exploser la banque.
Ça va être 25-30 millions par année.
Mais c'est déjà ça quasiment qu'il lui donne.
Quasiment.
18,5 au maximum par année. C'est quand même pas mal.
Ouais, ouais.
Le gars, 70 games dans
mais
le
à 20 ans, c'est, je trouve ça. Tu sais, la Ligue nationale de hockey est bien faite pour ça, parce que quand tu arrives à ton contrat d'entrée, c'est
après
obligé d'être 3 ans, puis c'est obligé d'être. Mais c'est sûr que ça te permet, ouais, de bâtir des statistiques. Puis là, d'exiger le gros lot après.
C'est plus normal.
Ouais, c'est un peu plus normal.
Au moins un contrat d'entrée, dans le fond, là.
Ouais. Il faut qu'il soit bon, je vois le vert, là.
Ouais.
Fait que ça se peut qu'il frappe 227 pendant 2 ans.
Faudrait qu'il y ait du monde au stade olympique.
Hey, puis pas juste ça. Il n'a même pas frappé 300 l'été passé. Je comprends qu'il y a 20 ans, mais il n'a pas frappé 300.
C'est vraiment extraordinaire. C'est le potentiel. Ça semble être assez unanime pour les gens qui connaissent le baseball que ce gars-là a un potentiel exceptionnel.
Puis il se trompe pas bien, dans le baseball.
Non, je sais bien.
Xavier Bogaert, là, c'était à peu près pareil. Quand les Red Sox ont dit ça va être lui, il avait ça 20 ou 21 ans, puis il jouait à l'aréco.
Quelqu'un va y donner si tu lui donnes pas.
Ouais, c'est ça.
il faut. C'est rendu ça pareil, là. Les joueurs, les meilleurs joueurs ont le gros bout du bâton, pas mal.
Je sais, je l'ai vécu.
Oui, c'est ça.
Mathieu Calabrini, il t'appelle pas beaucoup.
Puis hier, ben, c'était le deuxième épisode de Man in the Arena, Tom Brady. Ça sort à tous les mardis. Il y en a 10 finalement, parce que le concept de cette série télévisée, qui c'est 10 épisodes d'une heure, c'est Tom Brady qui raconte ses saisons où il a participé au Super Bowl. Donc, il y en a 10. Il y a 10 participations au Super Bowl. Ça dure 10 ans. Hier, c'était la deuxième participation des Patriots, c'est-à-dire la saison 2003, qui se termine par une autre conquête du Super Bowl contre les Panthers de la Caroline à Houston le 1er février 2004. Puis, ça débute avec... Cette série-là nous fait réaliser, Steph, que Brady a été bon, mais Belichick a été très important dans les succès des Pats. Tu comprends un petit peu plus à l'intérieur comment ça se passe. Cette saison-là débute que Bill Belichick, il sac dehors Lawyer Malloy. Ça, c'est un de ses meilleurs joueurs défensifs. Mais Lawyer Malloy, il s'en venait pour signer le gros contrat. Belichick, c'est la même affaire que les Rays, là.
Il paye pas.
Il paye pas. Donc, quand le gars, il arrive à son gros contrat, ben, souvent, il dit, je sais pas comment je vais faire, mais je pense qu'à partir de tout de suite, je vais me passer de toi. Donc, puis lui, c'est un gars très aimé par les partisans, par les joueurs. Début de l'année, il sac dehors, à quelques jours du début de la saison. Les Bills de Buffalo le réclament, lui font signer un contrat. Et le premier match de l'année, c'est Buffalo contre les Patriots. Lawyer Malloy est craqué, le match a lieu à Buffalo.
Il veut y manger.
Il gagne 31-0. Les Bills ont gagné 31-0 ce match-là, le premier match de la saison. Le premier match de Lawyer Malloy. Là, les médias un peu partout s'emparent de ça et disent « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il a fait Belichick, ça n'a pas de bon sens ». Puis c'est, leur saison est foutue. On entend une analyste de ESPN dire « la saison des Patriots est foutue », Tom Jackson qui s'appelle. « La saison des Patriots est foutue, qu'est-ce qui s'est passé dans cette organisation-là ». Mais tu sais, c'est Tom Brady qui choisit toutes les images, là. Brady voulait faire mal paraître ce gars-là, mais il fait très mal paraître dans le reportage d'ailleurs.
Il travaille-tu encore, lui?
Non, il travaille plus à ESPN. Il a fait longtemps, là, mais cette phrase-là est comme revenue hier. Mais, il a pas dû aimer ça, la voir. Fait que c'est Brady qui fait la narration puis qui raconte toute la saison. Et hier également, c'est il y a Rodney Harrison qui est maintenant à NBC. Là, vous le voyez, il fait des commentaires le dimanche soir à NBC dans l'émission d'avant-match. Rodney Harrison, lui, a pris la place de Lawyer Malloy parce qu'il s'était fait sacrer dehors par les Chargers de San Diego. Il est devenu libre. C'est un excellent demi-défensif aussi. Puis c'est lui qui a pris la place de Malloy. Puis dans cet épisode-là, hier, on voit le leadership, comment ça se passe du leadership dans une équipe. Ça part de Belichick, parce que Belichick, il a dit, c'était pour le bien de l'équipe. C'est Belichick, il donne jamais beaucoup de détails, mais il a dit, pour le bien de l'équipe, on a pris cette décision-là. Il aurait pu dire, j'ai pris cette décision-là, là, mais on a pris cette décision-là pour le bien de l'équipe, de mettre dehors un gars très populaire. Puis là, pas Belichick, mais Harrison. Brady et Harrison, là, ils prennent le leadership du vestiaire. C'est fascinant de voir ça aller.
Okay.
Parce que là, ils disent, on entendait tous les commentaires, mais c'est pas les commentaires qui nous ont motivés, qui a dit Tom Brady. C'est nous autres, ensemble, qu'on s'est dit, la gang qu'on est ici, on est capable de gagner. Puis là, on voit le déroulement. Cette année-là, il bat Peyton Manning pour la première fois dans les séries éliminatoires. Tom Brady dit, j'ai beaucoup de respect pour Peyton Manning. Puis dis-moi, quand je suis arrivé dans la ligue, le gars qui était la face de la franchise, qui était le carrière vedette, c'était Peyton Manning. Manning, il y a quelques années plus jeune que Tom Brady, il est arrivé 2 ou 3 ans avant Tom Brady. Puis dans les séries, un match dans la neige à Foxborough, les Patriots battent les Colts, c'est la finale de la conférence. Ils s'en vont au Super Bowl avec ça. Mais c'est très, très bon. Donc, c'était hier le deuxième épisode. Ça sort le mardi. J'aimerais ça vous donner les heures, mais je les ai pas.
Non, mais j'aurais aimé ça que on peut pas le réécouter. Comment j'ai même pas commencé.
Sûrement. Ouais. Ah, ben, toute la série, je sais pas.
Ouais. Mais tu checkeras ça. En tout cas, si tu trouves une place qu'on peut le regarder,
pas mal sûr qu'on peut te crossoyer un petit quelque chose.
C'est sur TSN, c'est certain. Il y a 5 TSN, mais.
Ouais, puis moi, sur demande, mettons, avec Bellefibre, TSN, ça appartient à Bell. Fait que.
On va avoir une possibilité.
Ouais, je vais aller foudre ça aujourd'hui.
Man in the arena.
Je suis débordé.
C'est ça.
Ah, je suis débordé en telle, sérieusement. Ah
oui? Tu sais, je t'ai parlé de la victoire de 31-0 des Bills au premier match de la saison. Le dernier match local, c'était encore les Bills contre les Pats. Là, c'était en Nouvelle-Angleterre. Comment ça finit?
C'est beau.
31-0 pour les Pats.
C'est vrai?
Puis la motivation de ce match-là, c'était la revanche.
Vas-y, mon Malloy.
Il n'y avait pas d'autre chose que ça. clair. Les Pats ont fini 14-2. Ils étaient assurés du premier rang de la conférence, sauf erreur. Mais là, ils leur en ont donné une sincère. Le score montait, puis Brady il dit « Ah, oh, il s'était rendu 31-0, il s'était rendu 31-0. » Et ils leur ont mis ça dans la papille.
Ah, c'est bon, ça. Ah, Malloy, là, est-ce que ses parents avec les Malloy, c'est à Québec
non,
là, qui ont les étagères?
M-I-L-L-O-Y.
Hein?
M-I-L-L-O-Y.
Ah, les autres, c'est Malloy. Lui, c'est Milloy.
Milloy, lui.
Ah, lui, exploit. Fait que t'as vraiment son pas parent.
Puis lui aussi, il est en entrevue dans le reportage d'hier.
Bon, on dit que ça a l'air le fun.
C'est bon, c'est vraiment bon. Ça sort le mardi.
Bon, fait que moi, tous des genres de documentaires comme ça sur la vie des gens populaires, que ce soit Last Dance, ça, ou encore Aline, sur Céline
Aline
Dion.
Aussi,
peu importe, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Très bon.
Je vais peut-être oublier Tiger King.
Mais perdez pas de vue que c'est mené par Tom Brady, là. T'sais, ça fait pas mal paraître Tom Brady.
Non,
là.
C'est ça. On voit pas tout. Ça fait le tour.
Ça fait le tour pour l'instant.
C'était, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est, on est le 24 novembre. Ça fait 30 ans aujourd'hui qu'il est décédé, Freddie Mercury. De Queen. T'as-tu Bohemian Rhapsody, pardon? Et ça fait 30 ans aujourd'hui qu'il est décédé. Puis tu sais, il y a eu le film qui a été quand même où on voit Freddie Mercury dans toutes sortes de passes de sa vie. Mais ce qu'il faut comprendre de ce gars-là, écoute, qui n'a pas nécessairement eu facile quand il était jeune, mais qui avait un talent incroyable. Et mais c'est que l'homosexualité était très, très, très cachée à cette époque-là.
Il y a 30 ans, c'est sûr.
Ouais. Puis, il y a 30 ans, il est mort. Fait qu'imagine-toi, il y a 40 ans, mettons les années où il devient extrêmement populaire. Puis, faut se rappeler, moi, je m'en souviens pas vraiment, là, mais j'ai vu le film, puis j'ai un peu regardé ce qui s'était passé. Il était aussi populaire auprès des femmes que des hommes. Puis, il y avait pas d'Internet. Les communications n'étaient pas ce qu'ils étaient à ce temps. Fait que ce qui se passait dans la vie privée de Freddie Mercury, il y a personne qui savait ça. Tu sais, puis ça se parlait dans dans la petite communauté, mettons, artistique. Est-ce que vous avez vu le film de Freddie Mercury?
Non.
Vous l'avez pas vu ça?
Non.
Ah, ben, ça s'appelle Bohemian Rhapsody.
Bohemian.
Ah non, c'est il y a des parties partout d'homosexuels dans sa maison. C'est pas beau là. Tu sais, c'est pas beau dans le sens où il y a de la drogue et
la débauche, mettons.
C'est de la débauche. Okay, ouais, c'est ça. Puis ouais. Ça fait bien de la peine à son. Il se fait un chum à un moment. En tout cas, peu importe. C'est tu sais, puis il se fait une blonde aussi là. Il se fait une blonde longtemps.
Son
là.
Cover, ouais.
Ouais. Et mais qui restera toujours, je crois, sa meilleure amie, cette femme-là.
Okay.
Mais tout ça pour vous dire que à quel moment on apprend officiellement qu'il est homosexuel et qu'il est atteint du sida? La veille de sa mort. La veille de sa mort, il annonce qu'il est porteur du VIH. Il est mort le lendemain du VIH. Vous comprenez, il était vraiment en fin de vie.
Il était au bout.
Il a été très, 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 très malade. Mais c'était, écoute, un band extraordinaire. Moi, c'est drôle, tu sais, je trippe pas sur les Beatles, je trippe pas ben sur Pink Floyd, mais Queen, j'adore ça. J'adore ça. Et ça, Bohemian Rhapsody, vous savez que ça a pris 3 semaines à enregistrer une seule tune, celle-là. 3 semaines d'enregistrement en studio.
Ah, déjà qu'à l'intérieur de la toune, il y a 4-5 tounes déjà en partant.
Ouais.
OK.
Puis il y avait eu de la discorde aussi. Il y avait des gros problèmes de consommation. Des journées, ils se présentaient pas. Des journées, ils se présentaient. Puis là, les autres chialaient.
Ouais.
La chicane pognait. Tu sais, c'est un autre monde, là.
Mais
le
ça
film
donne...
en montre un bout, mais c'est pas
ça
toujours
donner
ça.
Tout un résultat, par exemple, c'est souvent ça. Hein? La création, souvent, ça va sortir des moments difficiles. On est dans le cliché gros comme le bras, là, mais... Mm-hmm. Je pense que ça peut être vrai, là.
Je pense que son plus grand rêve à Freddie Mercury, c'est que les broches aient été inventées avant.
Ah, ah ouais, il y avait les dents.
Il y avait les dents reformées avant. Lui. Mais c'était pas un athlète, un artiste.
Un athlète aussi. Quand tu donnes un pestaque de même, ouais. Plusieurs fois par semaine, tu deviens un athlète.
Quel était son objet fétiche à lui?
Le micro d'argent.
Demi-pied de micro.
Demi-pied?
Il y avait demi-pied. Tu sais, des fois, tu as un pied de micro qui va au sol, puis il y a comme une vis au milieu là pour ajuster la hauteur. Lui, il avait dévissé ça, et il s'est toujours promené avec le pied de micro du haut. c'est pas de bas, fait qu'il va pas jamais le mettre nulle part, il avait tout le temps dans les mains. Hein? Mais il y avait, comme aujourd'hui, on voit que la COVID, là, les journalistes, ils ont toutes des grandes parches pour se tenir à 2 mètres. Ben lui, c'était la même affaire.
Mais à lui.
Mais 30, mais 40 ans.
Il aurait fallu que quelqu'un y explique, peut-être.
Ouais, c'est ça. Ah, voilà, donc, ça fait 30 ans aujourd'hui que Freddie Mercury,
ça, là,
un grand spécialiste de la musique.
Il y a du headbang qui s'est fait en tabarouette, ce tune-là, parce que c'était dans Wayne's World, entre autres. Ça a été très, très populaire avant ça, bien sûr, là, mais entre autres dans le film Wayne's World. Puis, à un moment donné, t'as les 4 cabochons, sont 5 ou 5 à un moment donné, puis ça commence à être bangé dans le char, puis tin, tin, tin. Ah, c'est...
Let him go! Pas si c'est vrai qu'il se mettait des élastiques autour des gosses pour chanter au de même, mais en tout cas, ça monte à haut.
Il arrive, le headbang, ça s'en vient, là.
Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
On se détache les cheveux, tout le monde.
C'est terrible. OK. Hey, 30 ans déjà.
Ouais.
Donc, en 91, le 24 novembre, est décédé Freddie Mercury, où il est sur une île déserte avec Elvis, Jerry Roof et d'autres disparus. On vient dans un instant.